où il y aurait un monde vrai. Parce qu'un monde sans Dieu, c'est pas un monde. Le Rav Nachman de Breslav disait, un monde où la Shrina est absente, c'est pas un monde, c'est Kehina. Vous connaissez l'expression du Talmud, à partir du moment où le monde fonctionne comme la nature, comment le Talmud définit le déterminisme naturel? Olam, Keminhago, Noeg, le Minhag à Olam. Le Midrash a déjà indiqué que les lettres du mot Minhag, c'est les mêmes que le mot Kehinam. Oui, on n'a rien inventé. Okay. Ça veut dire le monde de Olam, Keminhago, Noeg, c'est Kehinam. Minhag, Kehinam. Okay. Et de la même manière, un monde sans l'homme, c'est pas un monde. La preuve, c'est que Dieu a voulu que l'homme habite l'homme, que l'homme habite le monde. Enfin, Dieu sait pourquoi. Un monde sans l'homme, c'est pas un monde. Et nous avons des sources à ce sujet. J'ai it ava les ikvoir, non, les ikvoir, dira tout votre nom. Dieu a décidé qu'il préférait être dans les mondes d'en bas et pas dans les mondes d'en haut. Dans les mondes d'en haut, il n'y a pas d'homme, on s'ennuie. Okay? C'est dans les mondes d'en bas qu'il y a l'homme, mais il y a aussi le mal. Et donc, quel est le problème? Il y a une alliance pour pouvoir créer le monde. Parce que l'existence du monde est une impossibilité. Et on pressent déjà que le thème de Bereshit Bara Elokim Hashem et Ha'aretz et le thème de Vashem Pakad et Tzara ont le même contenu. J'arrive au deuxième volet de la comparaison. C'est que nous avons une telle familiarité avec les naissances d'enfants qu'on ne se rend pas compte que chaque fois c'est le même problème que la naissance d'Isaac. Seulement, la Torah nous a raconté la naissance d'Isaac pour nous faire comprendre pour toute naissance. En principe, a priori, toute naissance est aussi impossible que la naissance d'Isaac. C'est-à-dire le commencement du monde d'un homme, le commencement de l'histoire d'un homme, ça pose le même problème que Briat HaOlam. Il n'y avait rien, subitement il y a. Alors, petite analyse, mais je pense que vous êtes familier à la signification traditionnelle du problème. Il y a un passage très célèbre de Descartes, d'ailleurs, à ce sujet, mais je ne vais pas citer Descartes. Comprenons-le avec notre propre sensibilité. Il est bien évident que si on croit qu'un homme sait son corps, on ne comprend rien à ce problème. On dira, eh bien, ce n'est pas du tout création ex nihilo, ce n'est pas Yesh Me'ayin, ce sont les parents qui ont collaboré à fabriquer un corps, qu'est-ce qu'il est, avec sa carte d'identité génétique ou autre. Mais il est bien évident qu'un homme n'est pas son corps. Et lorsqu'on parle de l'homme qui n'est pas son corps, il est bien évident que c'est création ex nihilo. Il y a expérience en travaux pratiques. C'est quand on a un enfant, quand on devient à son tour père ou mère, eh bien, on sait très bien que quelqu'un apparaît là qui n'était pas là, et que ça n'a rien à voir avec la poupée de cire qui l'habite. Vous comprenez ça? Je crois qu'on le comprend d'autant mieux quand on est grand-père. Parce que jusque-là, on avait l'impression de jouer à la poupée. Et c'est là que ça commence à devenir sérieux. On s'aperçoit de ça, qu'il n'y avait pas quelqu'un, et subitement il est là. Et ce quelqu'un qui vient, il vient avec son monde tout entier, se fuchait perdument de sa préhistoire. Et vous savez ça, d'ailleurs. Voilà, donc ça veut dire que c'est la même réalité. L'une, au niveau de l'histoire du Roland, et l'autre, au niveau de l'histoire du Adam. Bon, j'espère vous avoir déjà donné suffisamment d'indications pour répondre, avoir des éléments de réponse à ce problème. Pourquoi, à Rosh Hashanah, au lieu de commencer par le Maaseh Bereshit, on commence par la naissance d'Isaac? Ça va jusque-là? Alors maintenant, vos questions. Enfin, je suis persuadé que vous avez des questions, et comme dit la Gemara, ne pas poser de questions quand il faut les poser, ça s'appelle Gezel. Et c'est le Midrash. Oui, mais... je vais te répondre très, très, très rapidement. La réponse est dans le mot Toldot. Les Toldot, c'est pas Abraham. Ça y est, c'est clair. Et c'est très bien que le mot de Toldot n'apparaît vraiment dans la Torah que par rapport à Yitzhak. Il apparaît déjà avec Noar, mais la paracha de Noar ne s'appelle pas Toldot, elle s'appelle Noar. Je vous rappelle le Chidouche qu'on a étudié à ce sujet. qui est très jolie. C'est, je vous lis le verset. Elle est todot noir, noir, il s'adit, tami maya bedorota, vete lokim italer noir. Le rébus en question dit ceci. Elle est todot noir, noir, nekuda. C'est-à-dire, voilà les todot de noir, c'est noir. Ça veut dire, ils se multiplient par copies plus ou moins conformes. On les appelle les bnei noirs. C'est pas des todot vraiment. C'est clair celui-là? C'est de la démultiplication, multiplication, machine à photocopier. Okay. Et ça s'appelle duplicata ou duplicato, je sais quoi. Alors la Massorette a indiqué ça de façon très claire. On aurait dû dire parachat tondot, elle est tondot noir. Non, non, elle dit parachat noir, pas parachat tondot. C'est clair? La parachat tondot, c'est Yitzhak ben Abraham. Nous, on est en plein dans le sujet. Je ne vais pas reprendre l'analyse de Behi Bareham, Behi Bareham, Altikre Behi Bareham et la Behi Abraham, mais simplement rapidement, tout le problème est autour de ce Hé qui est petit, écrit en petit, si tu te souviens, dans le verset. S'il n'y avait pas ce Hé là, il faudrait dire Elle est Tondo Tachamayim Varet Beboram. Et Beboram, c'est le transitif. Le sujet, c'est le créateur seul. Tant qu'Abraham s'appelait Abraham, il y avait écrit Beboram. Seul Dieu est le sujet de la création. Dès qu'Abraham s'est appelé Abraham, il y a Behi Bareham, le mérite est déjà aussi du côté de la créature. Vous avez compris là Behi Bareham, c'est un. Comment on dit en grammaire Behi Bareham. Hein? Par le fait d'avoir été créé, mais le sujet c'est la créature, Behi Bareham. Tandis que Beboram, par le fait de les avoir créés, mais le sujet c'est le créateur. Il y a peut-être un nom en dikdouk à ce mode verbal-là, je ne sais pas. Pas des grammairiens pour mieux. Non? Comment on dirait Behi Bareham? Quel mode verbal c'est ça? C'est pas le Itpael. C'est non. C'est Nifhal. Nifhal. C'est-à-dire, l'objet collabore comme sujet avec le sujet. C'est ça? Par exemple, l'expression traditionnelle, je vais vous citer une phrase de la Gemara. Mibriato shel olam. On ne dit pas briata olam. Briata olam, ça veut dire le sujet, c'est Dieu qui a créé. Briato shel olam. Ça vient du olam. Briato shel olam. Vous voyez le changement d'expression. Nibra. C'est la différence entre les brouhim et les nivraim. Bien, je referme la parenthèse. Il y a une autre question. Est-ce que c'est suffisamment évident ce que j'ai essayé d'expliquer parce que. En français, j'avais pas entendu toujours comment j'ai traduit des sources hébraïques. C'est que le thème du Briata Olam, Harat Olam, et la naissance d'Isaac, c'est le même thème à deux niveaux de vue. C'est-à-dire, il y a autant d'impossibilités, c'est vraiment Bria Eshmeaïn. Je reprends brièvement le plan de l'histoire d'Isaac, et c'est là qu'on comprend pour comment l'analogie s'exprime au niveau de la Midat HaDin. Puisque le monde doit être justifié a posteriori d'avoir été créé, c'est la Midat HaDin qui préside le fait de création. Bereshit bara Elokim. Et là nous avons la Midat opposée, la Hashem Pakan et Sara. Mais la Pkida, ça c'est au nom de Hashem. La Leda, c'est au nom de Elokim. Mais la différence, la Midat HaDin. Bon, ça va? Vous avez d'autres questions? Attends, et David Aborken, David, oui. C'est Midat HaDin, mais je vais reprendre la première partie de ta question. Il y avait deux questions dans ta question. Reprends-la d'abord toi-même, parce que je la reprends. Pose la même question, n'ajoute pas. Voilà, alors. Bon. En ce qui concerne la création, très bien. Très bien, voilà. Alors, je traduis d'abord les expressions qu'il y avait en hébreu. Il y a un verset qui dit Olam Chesed Ibané. Le monde est construit par Chesed. Chesed, c'est l'amida de grâce, charité. Ça veut dire qu'il ne réclame pas de mérite. Vraiment, l'amida opposée à l'amida Zadine. L'amida Zadine, il faut rendre compte, payer, et c'est justifié a posteriori. Alors, ça, c'est l'histoire du Tikkun HaOlam qui commence par ce verset. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Binyan HaOlam Davka. Le Binyan HaOlam commence par Chesed. Briat HaOlam, c'est plus haut, ça vient de Bina. Alors, la Briat HaOlam, c'est par la Midat Adin. Et le Tikkun HaOlam commence par Midat Chesed. Vous vous rappelez, une fois nous avons étudié ce. C'est clair ce que je dis là? Oui, vous l'avez dans les mots. Olam Chesed Ibané. C'est le Tikkun HaOlam, le Binyan HaOlam. Briat HaOlam, c'est Ratsa Kadosh Baruch Hu, l'hébreu est HaOlam et Midat Adin. Il a fait. C'est-à-dire le Shoresh de la Bria, c'est HaOlam HaBria qui est le Shoresh de la Midat Adin. Alors que le Shoresh du Tikkun HaOlam est beaucoup plus haut que Bria, c'est Chesed Elyon qui est avant Keter. C'est beaucoup plus haut. C'est-à-dire dans la Mahashava, Kulo Chesed. Dans le Mahasé, c'est dit. Mais le Tikkun commence par Chesed. Je vous rappelle ce verset très, très facilement. Oui, là nous avons un exemple très, très important du point de vue de l'étude. C'est qu'il faut étudier la question dans les termes mêmes où elle est posée. Et, vous voyez, la réponse finalement était très simple. C'est la différence entre Briat HaOlam et Binyan HaOlam. Binyan HaOlam, c'est pas Briat, c'est Tikkun HaOlam. C'est clair les mots hébreux que j'ai employés. Le verset dit Vayomer Elohim Yeyor, Chesed. Vayyor Goura. Vayar Elohim et Or Kito Tiferet. ויבדל אלוקים בין האור נצח ובין החושך הוד ויהי ערב יסוד ויהי בוקר מלכות תוסע זה יום אחד נשא של תיקון העולם, זה פה בריאת העולם זה אומר, לקונסקנס של בריאת העולם זה תוהו ובוהו לתיקון העולם קומנס פה ויאמר אלוקים יהיו אלא לתיקון העולם קומנס פה אברהם מלא שורש של בריאת העולם זה דווקא יצחק מידת הדין, תראו כמו סבא פסקו חסד עשו חוכמה מגבורה יסוד Bien, il y a une autre question.
La fameuse alliance entre Dieu et l'homme
qui est Lequel ? Olam
Abba,
bien sûr. Oui, à condition que tu nous dises, qu'est-ce que tu mets dans la relation qu'il a eue avec Sarah ? Réussi.
Ah.
Oui. Non, parce que qui engendre,
non,
on est déjà. T'as remarqué. Voilà, je veux dire. Abraham est vraiment en train de devenir Abraham, à partir d'Abraham, quand il est capable de dire de sa femme qu'elle est sa sœur. C'est là que Yitzhak peut naître. Vous avez compris le problème. C'est-à-dire, pourquoi je t'ai arrêté tout de suite à ta formulation de la fin? Ça basculait déjà dans la littérature occidentale. Tu as compris? Le couple qui engendre, le dialogue fécond, tout ça c'est la philosophie. Mais il faut d'abord construire la bria authentique du point de vue moral. C'est clair, okay? Je vous rappelais le thème en question, c'est que tant que lui ne peut pas dire à elle « tu es ma sœur », elle ne peut pas enfanter. Voilà, c'est comme ça dans tout le récit des empêchements d'enfantement. Parce qu'on ne s'occupe pas ici de faire des petits dômes avec la machine à polycopier, okay? On s'occupe ici des tonnades qui doivent mener au Mashiach. C'est clair. Alors, tant qu'on n'arrive pas à ce niveau de progrès dans l'identité, l'enfantement est arrêté. C'est Jacob qui dévoile ça à Rachel lorsqu'il dit Hatahat Elohim Anochi Asher Mena Achal Aledet. Comment il y a dans le verset Anochi ou Ani Anochi, il y a fait. Hatahat Elohim Anochi Asher Mena Achal Aledet. Est-ce que quand Rachel se plaint de ne pas avoir d'enfant, Jacob lui dit, est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'a empêché d'enfanter? Ça veut dire c'est Dieu qui empêche l'enfantement, tant que ça risque d'être un brouillon d'approximation. C'est ce qu'on va voir si on a le temps un peu tout à l'heure. Sinon on débordera sur d'autres cours. La différence entre Ishmaël et Yitzhak. Pourquoi c'est pas Ishmaël qui est Yitzhak? On verra, parce que c'est une approximation. Alors, pour engendrer l'approximation, n'importe quelle princesse, ça suffit. Agar, d'après le Midrash, c'était la fille du Pharaon. En termes de société, ça veut dire n'importe quelle société comme matrice de civilisation peut enfanter Ishmael. par Abraham. Abraham peut faire Ishmaël dans le monde à travers n'importe quelle société. La société fécondable à l'époque, c'était Mitzrayim. Alors le Midrash tranquillement dit Agar, c'est la fille du Pharaon. Et voyez bien que ce n'était pas Abraham qui était empêché. Abraham, c'était qui était empêché. Puisqu'il pouvait avoir Ishmaël, c'est facile d'avoir Ishmaël. Et c'est facile, il faut les conditions, mais... Et alors c'est Sarah qui est empêchée. Parce que si Sarah n'est pas encore au stade où elle peut enfanter Yitzhak, alors elle enfanterait Ishmaël. Ce serait la catastrophe. Imaginez qu'Ishmaël soit Israël. D'ailleurs, il ne demanderait pas mieux. Mais... Oui, mais donc, c'est cette histoire que nous vivons.
Est-ce que Sarah fait quoi? Pourquoi elle peut engendrer après
Yitzhak? Parce que Abraham a commencé par dire « Tu es ma sœur », mais tant qu'elle n'a pas dit « Il est mon frère », c'est clair? Bien. Alors il nous reste peu de temps, mais quand même, si vous avez d'autres questions, parce qu'il ne reste qu'un quart d'heure, et puis après on décidera pour le cours de lundi après-midi prochain, si vous voulez. Au fond, on prendra le thème de la raquette à Yitzhak dans les Slirot, puisqu'on n'a pas eu le temps de voir le texte. On a eu juste l'introduction au problème. Alors, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a 4 ou 5 Slichot qui prennent pour thème la Hakedat Yitzhak. Il y en a deux qui sont très connus à Rosh Hashanah et à Kippour. C'est le on l'appelle la Hakedame. C'est le refrain de Oked Vaneika de Hamizbeach dans le Rite Sfaradi. Il y en a une qui est attribuée à Maïmonide, qui est la plus difficile comme texte, de la très grande poésie d'ailleurs, et une qui est attribuée à Judas Lévi. En fait, je vous donnerai les renseignements qui me permettent de vous dire qu'elle est attribuée à Judas Lévi, bien que, en principe, on l'attribue à 3 frères du judaïsme espagnol, dont on ne sait rien d'autre qu'ils auraient écrit cela, et les frères Abbas. Mais certains d'entre vous connaissent le rabbin Khalifa, qui est à Jérusalem, qui a fait une étude là-dessus. Je vais lui demander des renseignements encore plus précis, parce que ma mémoire est un peu du Talmud Torah d'il y a longtemps. Et il a établi qu'il s'agit de Judas Lévi. Mais Judas Lévi ou pas Judas Lévi, c'est le texte le plus populaire, en tout cas. Il y en a deux en particulier. Il m'a fait roba aken, qu'on dit dans les Slichot du matin. Alors, si vous voulez, on choisit soit la Hakeda de Maïmonide, soit celle de Judas Lévi. On la fera photocopier. Ceux qui ont décidé d'ouvrir me soirat vous la porterez. Une des deux est passée d'ailleurs dans le site de Chassidim. Et puis on étudiera ce texte avec le texte de la Torah pour l'année prochaine. Ça vous va? Ça aurait pu être un autre, Yesod Asod ou beaucoup d'autres, mais enfin. Nous allons préparer les textes, on étudiera ce texte. On fera un peu de poésie du Moyen-Âge à l'occasion des Avim Noraïm. Et les quelques minutes qui nous restent, peut-être on reprend ce thème pour aller plus loin. Fermera la porte, il y a de l'écho. Je reprends une minute avant d'oublier, malgré tout je voulais annoncer, mais je n'ai pas eu le temps de faire, le schéma, la structure même de l'histoire de Isaac en tant qu'il est le tzaddik par rapport à la minatadim. Il ne devait pas naître, il est né, il devait mourir, il n'est pas mort. C'est-à-dire, c'est exactement nos deux parachutes. Okay? Naissance impossible, ça c'est le thème de la création du monde, il est né quand même. C'est un miracle. Un miracle dans le sens strict. Okay? Et puis, finalement, l'inverse, le thème inverse qui apparaît le deuxième jour avec Hakedat Yitzhak. Il devait être sacrifié, entre guillemets, et puis il est sauvé par miracle. Ça veut dire qu'il est justifié par rapport à la Midat Hadin. La Midat Hadin exige que je paye le prix de l'être que le Créateur, en tant que Dieu d'Abraham, m'a donné en cadeau. Okay? C'est bien clair? Et alors, il a suffi qu'il soit capable de cela pour que Dieu dise à Abraham, maintenant je sais. Seulement, du point de vue du texte hébreu, malgré tout, l'épreuve était pour Abraham, pas pour Isaac. Là, je vais le dire tout de suite, si on n'a pas l'occasion la semaine prochaine. Parce que, pour Isaac, c'est pas une épreuve. Tout simplement. Il est le tzaddik de la Minat Adin. Quand il sera éprouvé, c'est par la Minat Haresed. Et il va échouer. De la même manière que quand Abraham est éprouvé par la mitadine, il risque d'échouer, puisqu'il était prêt à le sacrifier. Et vous connaissez tous les midrashim autour de ce thème. Alors remarquez tout simplement qu'après cette scène, la révélation d'Abraham s'arrête, et ça passe à la révélation à Isaac. Et même la dernière révélation où Dieu dit à Abraham, ne lui fais rien, c'est par un malach, c'est par un ange, c'est plus directement. Alors il a surmonté la 10e épreuve, mais vous voyez, trébuchement possible. Si Dieu ne l'avait pas arrêté, il faisait le sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est pas sa mida. Je veux dire, quand Abraham est éprouvé, il est éprouvé par rapport à la mida opposée, pour que l'unité des valeurs soit prouvée. Mais les 9 premières épreuves, c'était pour savoir s'il était chassid. C'était des épreuves de la mida d'Achesed. Maintenant que c'est sûr qu'il est chassid, presque complètement, l'unité des valeurs réclame qu'il soit éprouvé par la mida tadin. De même pour Yitzhak. Et inversé, tu vas m'aider encore à le retrouver, c'est dans Jérémie. Abicha Rishon Hata ou Nisra Pashkumpi. Les Midrash, les commentateurs disent Abicha Rishon, c'est Abraham. Je ne lui ai pas dit de le sacrifier, vous allez le sacrifier, tu te rappelles de ça? Ou Nisra Pashkumpi, c'est Yitzhak, il a aimé Esaü. Vous voyez comment la Midrash Tadin est malhabile dans l'épreuve à la Midrash Hachesed. Il aime son fils, regardez comme c'est énorme. Okay. Mais quel fils? Esaü. Okay. Alors, le Kishalom d'Abraham, c'est dans l'épreuve par la Midrash Tadin, il va le sacrifier. Et le Kishalom de Yitzhak, c'est dans l'épreuve de la Midrash Hachesed. Il aime Esaü. Et de ça, c'est la base du problème difficile que nous avons à résoudre, celui des Bnei Israël, qui ne sont pas que Bnei Abraham, ni que Bnei Israël, mais Bnei Yaakov qui s'appelle Israël, parce qu'il est fils d'Isaac et fils d'Abraham. Bon, vous avez retrouvé le thème général. C'est-à-dire, quand les Bnei Israël jouent à Abraham, c'est la catastrophe. Quand les Bnei Israël jouent à Yitzhak, c'est la catastrophe. Il faut jouer avec un grand J, hein, judaïsme, à être les enfants de Jacob. Je vais vous dire des choses énormes. Si Abraham vivait comme Abraham, okay, parmi nous, il serait fondateur de Shalom Arshav. Ça, c'est évident. Okay. Si Yitzhak vivait parmi nous, il prendrait la tête du mouvement de Kahal. C'est évident. Okay. Mais nous sommes les Bnei Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Puisque c'est clair que... rappelez-moi pourquoi j'ai donné cette précision. Oui, c'est pas une épreuve pour Isaac. Ça va de soi. Isaac ici parlerait comme Rabbi Akiva. Toute ma vie j'ai attendu ça, enfin. Okay. Vous avez compris le problème. Vous pouvez trouver. J'ai lu une fois chez le Rav Dessler, dans Mirtav Meliaou, la citation d'un Midrash qui dit que dommage que ça ne s'est pas fait. Il y aurait eu déjà l'accaparat du monde. Alors, seulement ce midrash était mal utilisé par les élèves du Rav Dessler, qui est un grand. Il est utilisé de manière christianisante, parce que c'est ça que disent les chrétiens. Leur histoire, c'est le sacrifice d'Isaac réussi, alors on a sauvé le monde. Ils sont complètement aveugles, le monde est sauvé, bon, c'est pas grave. Ça, c'est des têtes de goy, ils ne peuvent pas avoir autre chose. Mais le midrash, en réalité, ne dit pas qu'Isaac a été sacrifié, il dit que son nefesh l'a quitté. Pas sa neshama, son nefesh. Et que c'est ça que Sarah a vu de loin. Et effectivement, lorsqu'Yitzhak, nous reprenons tous ces éléments lundi prochain, mais lorsqu'Yitzhak n'était pas encore ligoté sur l'autel, son nefesh engendrait Esav. Mais lorsqu'il a perdu son nefesh, alors là il engendre David. C'est ce qu'il a mis d'Adin, mais du tzaddik. Alors qu'à Esav, c'est la minazadine du rachat. Vous avez compris l'importance du problème. Dans tous les cas, encore une fois, retenez bien cela. Pourquoi la Torah dit que c'est l'épreuve d'Abraham? Parce que pour Isaac, ce n'est pas une épreuve. Lorsqu'Isaac est éprouvé, c'est d'Afka par la minazachessé. Toi, l'homme de la rigueur absolue, comment tu aimes? Eh bien, il aime des gens pas aimables. Et parce que ce n'est pas sa mida. Est-ce que c'est clair? Je n'aurais jamais osé dire ça si le prophète Jérémie, appuyé par Rashi, n'avait pas expliqué de quoi il s'agissait. Regardez bien Rashi dans ce. Bien, est-ce qu'il y a une autre question? la femme, hein? Alors attendez, je vais... Bon, si j'ai compris la question, eh bien nous sommes dans le premier verset, et je vais répondre en hébreu. Il n'y a pas écrit « Va'elokim pakadetzara ». Ça, c'est les naissances qui se font sans difficulté. Il y a écrit « Va'achem pakadetzara ». Et ce verset est énorme, comme dit le Talmud. Quand il ne veut pas nous faire peur, il dit « Si ce verset n'était pas écrit, on ne pourrait pas le lire ». Regardez ce qu'il y a écrit « Va'achem pakadetzara ». Comment un théologien chrétien lirait ça? Et le Seigneur a fécondé Sarah. Purement et simple. Vous avez compris? Enfin, par exemple, par la raison déjà. Ça veut dire, simplement, je vous cite le Midrash. Vous voyez comme ils ont les maquettes. Voilà, ils ont fait du récit de la Bible des maquettes. C'est ça l'idolâtrie. Ils sont spécialistes en maquetterie. Hein? Bon, on peut juste dire. Oui. Et en argot, ça veut dire des choses. Mais le problème est enseigné par un midrash qui est très familier. Et lorsque l'homme est vraiment ish, époux, et que elle est vraiment isha, épouse, alors leur union fait apparaître le mot de ya, yud, et la shrina est parmi eux. Si, sinon, la shrina s'en va, il reste esh et esh. Connaissez cela? Bon, ça va dans ce sens. Alors là, c'est Vachem, Pakadetsara. Alors, on a les tonadot qui commencent. Je vous citais pour terminer, ça fait un autre rapport avec Maaseh Bereshit, un enseignement de Rabbi Yehuda et Chassid, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de la Tshuva. Vous savez, c'est la grande école des Chassidim allemands d'Ashkenaz. Il y a trois grands noms que je vous cite très rapidement. Shmuel Chassid, Rabbi Yehuda et Chassid, et Rabbi Eleazar Mivorms. 12e et commençant du 13e siècle, c'est la grande famille des Rokéa, les Chassidim d'Allemagne. Et alors, dans le Sefer HaChassidim, Rabbi Yehuda et Chassid, Sefer Chassidim, slicha, il faut enlever le Rabbi Yehuda et Chassid pose la question suivante. Pourquoi dans la Megillah d'Esther, le nom de Shema Vaya n'apparaît pas, le nom de Dieu n'apparaît pas, sinon par allusion, comme vous le savez. Alors, il répond, parce que le Shema Vaya n'apparaît qu'à propos des Toladot, des engendrements. Or, les engendrements s'arrêtent avec Esther. C'est clair? Je rappelle le verset. Ele toldot ha-shamayim va-aret be-ibare-am, be-yom ha-asot Hashem Elohim eret ve-shamayim. Le nom de Hashem apparaît dans le récit de la Torah qu'à propos des Toladot. Ça commence, donc, en principe, avec Adam Rishon. Et puis, Zé-Sefer toldot ha-adam. Et puis, voilà, en réalité, ça commence avec Yitzhak. Donc, le Shema Vaya apparaît à la naissance d'Yitzhak, Vashem Pakad El Sara, et se cache avec Esther, qui devient la femme d'Assuérus. C'est clair comme explication, c'est la réponse du Sefer Chassidim. Et je voulais ajouter quelque chose pour notre sujet, c'est ceci, si ça revient. Mais il faut que ça revienne, c'est dommage. Ça ne me revient pas, mais je vais vous donner quelque chose de corollaire. Vous remarquerez que dans le Maaseh Bereshit, il y a 32 fois le mot de Elohim, mais la 28e fois, ce sera la 26e fois que le mot de Elohim est employé, c'est quand le verset dit « Vayomer Elohim na'ase Adam », la 26e fois. Il y a donc un remez que c'est Shema Vaya qui apparaît parce que les Toladot ont commencé. C'est corollaire aussi à ce que Shema Vaya a pour valeur numérique 26. Okay. Je crois même que c'est au chapitre 26, verset 26 du chapitre 1, je vais vérifier tout de suite. Ça alors c'est trop, mais enfin on va voir. Ben oui. Yomer Elohim Naase Adam, c'est aussi au verset 26. Il n'y a pas trop de cauchemars. Là. Bon, c'est dommage que ce que je voulais ajouter à propos du Sefer HaChassidim, qu'est-ce qu'il disait donc? bon, ça peut être lié à ce que je disais tout à l'heure à propos de David. Il y a 13 fois le mot de Tolado dans tout le Tanakh. La première fois, au verset 4 du chapitre 2, c'est Ele Todot Hashemayim Va'aret Beibaream. Le mot de Todot est écrit avec toutes ses lettres. Ça s'appelle Malé. Et ensuite, c'est toujours écrit Chaser. Il manque une lettre, ou deux. Et puis la 13e fois, c'est pour la naissance de David, où le mot de Toldot et Toldot Paret est écrit de nouveau Malé. On voit bien qu'il s'agit des Toldot du Mashiach. Vous avez compris qu'il s'agit de Chaser Malé. Et là où le mot de Toldot est Malé, Chaser de Chaser, il manque les deux rames, c'est pour Toldot Ishmael. Ça, on s'en occupera donc quand on étudiera la semaine prochaine la Rakhida Titre. Bien, voilà pour le premier cours. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, plusieurs choses. Tout à l'heure, à 8 heures, nous avons étudié des textes de Orota Tshuva, du Rav Kook. Ensuite, le prochain cours a lieu demain à 6h30. C'est un cours de Halakha sur les fêtes de Tishri par David Ben Ezra. Le soir, il y aura une conférence sur la Tshuva, probablement par le Rav Aviner, puisque Théosophus est souffrant. Et vous aurez la suite du programme. Je vous rappelle que Rosh Hashanah est organisé à Tkoa. Il y aura donc les deux offices, l'office Ashkenaz au Beth Knesset du Yishuv et l'office Farad à côté. Et l'office Farad aura lieu selon le rite nord-africain et égyptien, puisque ce sont les Égyptiens et Yerushalmim d'ailleurs. Et vous pouvez vous inscrire au centre, enfin au secrétaire. Alors, à tout à l'heure, on entendra la suite.
כן, טוב, ניסיון, ניסיון, ניסיון.